Bonjour. Et Marine Le Pen, à son tour, se prit les pieds dans l'histoire. Alors que les références historiques sont omniprésentes dans la campagne présidentielle, Marine Le Pen a stupéfié en expliquant que la France n'était pas responsable de la rafle du Veldiv en 1942. Presque simultanément, le porte-parole de la Maison-Blanche expliquait, lui, qu'à la différence de Bachar el-Assad, Hitler n'avait pas utilisé d'armes chimiques contre son peuple, semblant oublier l'existence des chambres à gaz. Alors, est-ce qu'il s'agit de provocations négationnistes, de gestes politiques ou d'une simple ignorance indifférente à l'égard de l'histoire? Ce sera le débat de cette émission. On tentera de le démêler avec trois historiens. Henri Rousseau, vous êtes spécialiste de Vichy et plus particulièrement des réécritures successives de l'histoire de Vichy au fil des décennies. Denis Lacorne, vous êtes politiste, spécialiste de l'histoire politique des États-Unis et on vous interrogera plus particulièrement sur la perception que se font aujourd'hui les Américains de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, pour une émission historique, Mathilde Larrère sur le plateau nous racontera tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette rafle du Veldiv et sur son contexte particulier. Donc on va engager tout de suite ce débat. C'était donc le week-end dernier. Marine Le Pen était interrogée sur RTL, sur la repentance. On écoute.
Proposition 97, renforcer l'unité de la nation par la promotion du roman national, qui va le fixer, et le refus des repentances. Est-ce que Jacques Chirac a eu tort de prononcer son discours sur le Veldiv?
Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France. C'est pas la France.
Mais c'est l'État français.
La France.
Pas français,
la France. La France a été malmenée dans les esprits depuis des années. En réalité, on a appris à nos enfants qu'ils avaient toutes les raisons de la critiquer, de n'en voir que peut-être les aspects historiques les plus sombres. Donc je veux qu'ils soient à nouveau fiers d'être français.
Voilà. Alors une déclaration qui, pour les plus anciens d'entre nous ou d'entre vous, a évidemment rappelé une déclaration sur le même sujet de son père Jean-Marie Le Pen au micro de la même station.
Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais vous mettez en doute.
6 millions de juifs, c'est un point de détail.
Non, mais est-ce que
6
c'est.
6 millions de morts.
Est-ce que vous affirmez. Non, pardon.
Je l'ai compris, mais.
Non, mais 6 millions de morts, comment c'est.
Juifs.
Oui.
Dans la Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail?
Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas?
Oui, c'était pas un point de détail quand même.
Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est. Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a, des historiens qui débattent de ces questions.
Alors, bon, le discours de Jean-Marie Le Pen est un discours typiquement négationniste. On reconnaît les arguments, le système argumentatif des négationnistes. Donc, immédiatement, quand on entend plusieurs décennies plus tard sa fille sur le même sujet, on se dit c'est la même chose. Et à vos yeux, et c'est ce que vous avez écrit quelques jours plus tard dans le Huffington Post, c'est pas la même chose. Ce que dit Marine Le Pen n'est pas, à proprement parler, négationniste.
Ah non, je crois qu'il faut être clair, sinon on va entrer dans une autre polémique inutile. Là, on est dans quelque chose qui est différent, qui est d'ailleurs plus inscrit dans une forme de tradition française qu'elle revendique et qu'on peut aussi déconstruire, à savoir le refus jusqu'à Mitterrand, on va en discuter peut-être plus en détail, de reconnaître le fait que l'État français, la République française, la France, on est dans une sorte d'incertitude hein, lorsqu'on prononce ces questions-là, n'avait pas à s'excuser ou à réparer ou à reconnaître des crimes qui n'avaient pas été commis ou qui avaient été commis au nom d'un régime qui était illégal. Enfin, en tous les cas, c'est la version officielle. Or, moi, la première chose qui me frappe, je dirais les choses simplement, l'idée d'une illégalité de Vichy, l'idée que Vichy ne représentait pas la France, qui est celle du général de Gaulle, mais pas simplement, c'est une espèce de raccourci invraisemblable de limiter la résistance au général de Gaulle aujourd'hui, bon, était la parole d'un chef de guerre. d'un chef de guerre, d'un rebelle, un vrai rebelle, isolé, qui n'avait aucune force derrière lui. Je parle de De Gaulle en juin 40, et qui doit peu à peu s'affirmer comme une alternative à un gouvernement français dont on peut discuter à l'infini de savoir s'il était légal ou pas, mais qui était reconnu par les principales puissances de l'époque, les États-Unis jusqu'à assez tardivement et l'Union soviétique par exemple, et donc qui devait pour cela créer une sorte de fiction qui est une fiction de combat. C'est-à-dire, que ce soit vrai ou pas, au fond, peu importe. L'idée, c'est de dire, je représente la légitimité, je représente la légalité. En plus, il y avait tout un débat sur la manière dont le régime de Vichy est arrivé au pouvoir. Et donc, cette vision de l'histoire, je dirais, a une légitimité complète dans le contexte. La reprendre aujourd'hui, en 2017, avec tout ce que l'on sait de l'historiographie, de ce qu'a été non seulement le régime de Vichy, mais la France occupée, de tous ces débats sur jusqu'à quel point les Français ont-ils été ou non proches du régime, partisans ou non de Pétain, etc., ça me paraît absurde. Et surtout, même lorsque cette fiction d'une France qui, au fond, aurait été plutôt du côté du général de Gaulle que du côté de Vichy, bon, admettons, qui va durer, y compris dans les années 60, parce qu'elle est quelque part fondatrice de la Ve République, était une parole de réconciliation. On peut la contester. On peut dire, ma génération l'a contesté, mais c'était une parole d'oubli réconciliateur. L'objectif, c'était, en gros, de tourner la page de la guerre. Nous sommes quand même à peine 15 ans après. Donc, aujourd'hui, la même proposition dite par l'héritière d'un parti qui n'est pas exactement celui de la résistance et du gaullisme provoque rigoureusement l'effet inverse. Alors après, bon, je ne vais pas entrer dans une analyse politique sur l'immédiat, de savoir est-ce que c'est prémédité ou pas, mais moi je constate que ce qui était une parole de réconciliation qui a été mise en cause par une génération, bon, est aujourd'hui prononcée par quelqu'un qui suscite au contraire la polémique. Et là, je pense que ça pose un problème.
Alors, vous parlez de De Gaulle, mais cette parole de réconciliation s'est prolongée bien au-delà des années 60, jusque dans les années 90, puisque la version officielle, la France n'est pas responsable, puisque la vraie France était à Londres, cette version perdure jusqu'en 85, jusqu'à un fameux discours de Chirac, lors d'une journée de commémoration du Veldiv en juillet 95.
Oui, alors je mettrai une petite nuance. Je mettrai deux nuances, si vous me permettez. La première, c'est que oui, même d'un point de vue juridique, les textes qui font foi, c'est l'ordonnance d'août 1944 qui constate l'illégalité des actes de Vichy et estime, enfin c'est la fameuse position du général de Gaulle en août 44, que la République n'a pas à être rétablie puisque la République n'a jamais cessé d'être. Encore une fois, on est dans une logique de combat. Moi, je dirais, pour être un petit peu plus précis, même si on peut avoir un débat sur le sujet, au fond, la question de savoir si Vichy représentait ou non la France a disparu du débat public. C'est-à-dire, non pas que la question n'existe pas, mais elle ne fait pas partie des préoccupations ou du débat sur l'histoire à ce moment-là. Le fait que la résistance constitue ou représente, en gros, les valeurs, les vraies valeurs françaises, n'est pas remis en question, sauf par une minorité de nostalgiques, dont ceux qui vont fonder par la suite le Front National. Et donc, par exemple, cette phrase qui consiste à dire De Gaulle n'a pas reconnu la responsabilité de la France dans le Veldiv, probablement qu'il ne l'aurait pas fait, effectivement, mais il n'a jamais eu à le faire.
Ouais, la question ne s'est même pas posée. Dans les années 60, oui.
Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que la question se pose dès lors où émerge une autre manière de voir la période, dès lors qu'émerge une forme de souvenir assez fort, assez vif, de ce qui a concerné ce qu'on appelait par la suite la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des Juifs. Question qui se fait jour non seulement en France, mais partout en Europe. C'est pas un problème spécifiquement français. Et donc, on va voir émerger, pour aller vite, des demandes de la société civile, par exemple l'association Klarsfeld ou d'autres associations, qui vont peu à peu considérer qu'il faut qu'il y ait un geste, qu'il faut qu'il y ait une parole réparatrice, qu'il faut pas simplement reconnaître, faut pas simplement, par exemple, ouvrir les archives pour que les historiens travaillent. Il faut aller beaucoup plus loin dans la parole politique. Et ces demandes-là, de mon point de vue, enfin, si on retrace un petit peu l'histoire de cette question-là depuis la Libération, le premier président qui va avoir à y faire face directement, c'est François Mitterrand. C'est ni le général de Gaulle, ni Georges Pompidou, ni Valéry Giscard d'Estaing, qui étaient à peu près tous sur la même position implicite ou parfois explicite, s'il fallait préciser. Mais le premier qui doit répondre à la question précise, est-ce que vous êtes, oui ou non, prêt à vous excuser sur ou toute autre parole similaire pour ce que l'État français, la question de l'État français déjà, la première question, a fait durant la mise en place de la solution finale en France, et c'est Mitterrand.
Avec ce paradoxe formidable que Mitterrand a la biographie qu'il a, c'est-à-dire que il a servi Vichy.
Oui, alors en plus,
c'est pas en plus, c'est central.
Oui, c'est central
dans l'histoire, non?
Oui, c'est central parce que c'est le président de la République, parce que c'est lui qui doit affronter cette question-là, parce qu'il est, il a une ambivalence évidemment considérable, qui est d'ailleurs l'ambivalence de toute une partie de sa génération. Enfin, il l'a pris de front parce que là où il est, en plus président de gauche avec son héritage vichiste, est extrêmement difficile à admettre par toute une partie de l'opinion. Mais toujours est-il que cette ambivalence va se traduire d'ailleurs par deux réactions presque contradictoires. D'un côté, vu la pression à ce moment-là, qui est énorme, le comité Veldi, enfin moi je me rappelle, c'est mon époque, je veux dire, j'y ai participé, les émissions de télévision, c'est toutes les semaines, sur le sujet.
Là, on est début des années 90.
On est le début des années 90, on est très exactement 92, c'est l'anniversaire, le 50e anniversaire de la rafle du Veldiv, et donc de toutes les rafles de l'époque. Finalement, Mitterrand va accéder à un certain nombre de demandes et va créer une journée nationale, ce qu'on appelle aujourd'hui une journée nationale commémorative, qui est la journée qu'on célèbre le dimanche du mois de juillet, qui est le plus proche de la date du 16 et 17 juillet, donc anniversaire du Veldiv, et qui est ce que j'appelle, enfin, à la suite de toute une historiographie, la première commémoration négative de l'histoire de France.
Alors, il crée cette journée, c'est un geste fort, il l'a créée en 94, c'est bien ça?
Elle est créée en 93, elle est célébrée pour la première fois en 93.
D'accord. Mais cela dit, il faut pas trop lui demander d'aller plus loin. Donc, on va écouter un extrait de l'interview qu'il donne à l'automne 94 à Jean-Pierre Elkabbach. Donc, c'est la dernière année de son second septennat. Et on va voir qu'il faut pas trop le chatouiller sur l'histoire.
On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même.
Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuse à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France.
Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude? Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien sûr.
Pas de recommandation à faire.
Non, mais parce que la pression va se faire également sur eux.
Dans 100 ans, peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France.
Voilà. Alors, il faut dire qu'il est sous pression pour plusieurs raisons, pour les raisons que vous avez rappelées, mais aussi parce que à l'époque, son passé vichiste vient d'être rappelé de manière spectaculaire par le livre de Pierre Péan, dont on vient de voir la photo qui figurait en couverture, ce qui est une photo évidemment très forte où on voit le jeune Mitterrand serrer la main de Pétain. Donc, on sent bien sa nervosité, on va dire, on sent bien la pression qui s'exerce sur lui. Et donc, virage sur l'aile, l'année suivante, nouveau président Chirac, qui lui va accéder à la demande de la société civile dont vous parliez. Donc, ça se passe en juillet 95.
Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Il y a 53 ans, le 16 juillet 1942, 450 policiers et gendarmes français, sous l'autorité de leur chef, répondaient aux exigences des nazis. Ce jour-là, dans la capitale et en région parisienne, près de 10 000 hommes, femmes, enfants, juifs, furent arrêtés à leur domicile au petit matin et rassemblés dans les commissariats de police. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable.
Voilà, geste d'une force incroyable.
Oui, c'est un geste important. J'aimerais juste revenir sur la différence en fait entre Mitterrand et Chirac. Alors on peut l'analyser uniquement en termes politiques. L'un défend une certaine conception de la France, l'autre défend une certaine conception des droits de l'homme, on va dire, pour simplifier. En fait, il y a quand même d'autres différences très importantes. Mitterrand, à ce moment-là, bien sûr, est quelque part pris au piège de son passé, qui est rappelé aussi pour des jeunes générations, pour ceux qui ne le savaient pas.
Bon, parce que la photo, on la connaissait pas.
Hein. Non, la photo,
moi,
elle
je
était,
la connaissais pas. Hein.
Bien sûr. Enfin, en gros, ça crée évidemment un scandale considérable. Mais en même temps, la position de Mitterrand n'est pas simplement celle du président de la République qui suit au fond la tradition, c'est aussi celle d'un résistant, on l'oublie. Hein. C'est-à-dire que le débat sur la participation de Mitterrand à Vichy, qui était une participation relativement mineure par rapport à d'autres, hein, y compris un ancien Premier ministre du général de Gaulle qui s'appelait Maurice Couvenot-Murville.
Ouais, il était très jeune aussi. Là.
Il était très jeune, bien sûr. Mais du coup, on a quelque part oublié que c'est aussi un résistant. Or lui, il exprime... C'est quelqu'un qui, par exemple, Mitterrand, c'est quelqu'un qui, après la guerre, a voté les lois d'amnistie. Donc ça veut dire, de son point de vue, et honnêtement, en tant que citoyen, je précise, je trouve ce point de vue parfaitement respectable. Il considère, lui, avec ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, si on entend bien ce qu'il dit, le fait de rouvrir cette question est dommageable. Le problème, c'est que Jacques Chirac n'appartient pas à la même génération, n'a pas la même lecture de son époque. Et Jacques Chirac, c'est pas simplement qu'il va accéder à la demande de la société civile, c'est qu'il va sentir que quelque chose a changé, que le rapport au passé a changé. Et lorsqu'il prononce son discours, il ne le sait sans doute pas à ce moment-là, la plupart des sociétés démocratiques sont entrées dans une autre conception par rapport au passé, où la question de la mémoire, de la reconnaissance des crimes, voire de la réparation de ces crimes, est devenue importante.
Donc, vous qui êtes un des spécialistes les plus reconnus de cette période et de son histoire, vous avez été consulté à l'époque par l'un ou l'autre des deux présidents, ou les deux, ou leurs entourages ?
Oui, enfin pas par Jacques Chirac, mais en ce qui concerne Mitterrand, oui, enfin j'avais eu des conversations. Et je dois dire, enfin si j'essaie d'être honnête dans ma position de l'époque, j'avais une position qui était autant celle d'un citoyen que celle d'un historien. Je ne pouvais pas, enfin personne, je crois, ne pouvait mesurer à l'époque l'impact que signifiait une telle reconnaissance. C'est-à-dire le refus de Mitterrand, au fond, va de soi. C'est-à-dire, y compris avec le débat qu'il y a eu lorsque Chevènement est intervenu, par exemple, sur la question de la République, qui était encore beaucoup plus nette. Imputer à la République des crimes alors que la République a été la première victime du régime de Vichy paraissait aberrant. Donc, la véritable essence, la véritable signification de ces paroles-là échappait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair.
Vous dites que vous avez été consulté par l'entourage de Mitterrand à l'époque.
Oui, enfin, j'ai eu des discussions consultées, le mot est un peu fort. Enfin, oui, j'étais
quelles étaient leurs interrogations ? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir ?
En gros, il y avait quand même des interrogations sur la nature du régime de Vichy, sur le... en gros, 92, c'est le moment où beaucoup de travaux ont été faits sur le régime lui-même, sur la société française. L'Institut d'Histoire et Représentation avait publié déjà énormément de choses. Ça n'était pas forcément encore intégré dans la connaissance commune globale. Ça restait parfois encore confiné à des cercles de spécialistes. Donc c'était un peu sur cet ordre-là. Mais clairement, moi, j'avais pris position à l'époque de je ne sais plus quelle émission de télévision, en disant, je pensais, encore une fois comme citoyen, qu'un geste, une forme de, au moins de reconnaissance, sinon de réparation, parce que la reconnaissance et la réparation, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. S'excuser au nom de la France, c'est beaucoup plus fort que simplement dire, voilà, je constate que les choses se sont passées ainsi. Bon, il y avait un débat qui était complètement ouvert. Ce débat, aujourd'hui, pour moi, il est tranché. Il a été tranché par l'histoire. Nous sommes 20 ans après. La question de savoir aujourd'hui, c'est quel est l'intérêt de le rouvrir. Je prends juste un exemple. Si on admet que l'État français ne serait pas responsable de CERF, ou plus exactement, puisqu'on revient sur cette idée de l'illégalité du régime de Vichy, pourquoi pas, mais alors toutes les décisions qui ont été prises, décisions concrètes, suite à la reconnaissance de la responsabilité de l'État français, mais qu'est-ce qu'on en fait ?
Par exemple,
le remboursement de tous les biens juifs spoliés par des lois françaises. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander aux gens de rembourser ? Non, là, il y a cette façon de défaire l'histoire à quelque chose d'absurde. Alors maintenant, si le débat, et Marine Le Pen est loin d'être la première et la seule à dire il faut arrêter d'insister uniquement sur les épisodes noirs de l'histoire de France. Je l'ai écrit il y a 20 ans, donc j'ai pas de problème avec ça. La question, et là aussi, il y a quelque chose d'erroné Là, je parle là vraiment en historien dans la déclaration de Marine Le Pen, parce qu'elle fait fi de tous les correctifs qui ont été apportés à la déclaration de Jacques Chirac de 95. Je prends juste un exemple qui concerne la question de la rafle du Vel'd'Hiv et la question de la commémoration de cette rafle. En 2005, l'intitulé et le sens de la journée a été modifié, puisqu'on commémore aujourd'hui, depuis 2005, les actes citations racistes et antisémites de l'autorité de fait dite gouvernement de Vichy et l'action des justes. Jacques Chirac, je le défends pas.
Les justes, c'est-à-dire
des non-juifs qui, à l'époque, ont protégé les juifs. Bon, il y a tout un débat là-dessus. Ça a été en France un phénomène relativement important qui a évidemment contribué à ce que les victimes juives soient parmi les moins nombreuses sur l'ensemble de l'Europe occupée. Dernière chose, c'est Jacques Chirac qui a créé pour la première fois la commémoration du 18 juin. C'est lui la première fois qui a créé une commémoration le 18 juin, en 2006, si ma mémoire est bonne, chose qu'on n'avait jamais faite jusque-là.
– Dans l'appel du général de Gaulle en 40. Denis Lacorne.
Oui, pour prolonger peut-être le contexte historique, moi je viens de terminer un livre sur la tolérance, les frontières de la tolérance, et ce qui est frappant, c'est qu'il y a des périodes où il y a des devoirs de mémoire, et d'autres au contraire, des devoirs d'oubli. Prenez Renan, qu'est-ce que la nation? Renan dit, c'est le plébiscite de tous les jours, mais il insiste sur le fait qu'il faut oublier les moments les plus tristes de l'histoire de France, et notamment oublier la Saint-Barthélemy. Voltaire, au contraire, dira non, il faut jamais oublier la Saint-Barthélemy, et moi, le jour anniversaire de la Saint-Barthélemy, je suis malade. Donc il y a différentes façons d'apprécier les événements les plus tristes, les plus sombres de l'histoire de France, et si vous lisez l'Édit de Nantes, qui, au contraire, est un progrès dans la tolérance. Dans l'Édit de Nantes, il y a des clauses qui disent...
Reconnaissant aux protestants la liberté de culte.
Oui, il y a plusieurs articles qui disent, à partir du moment où il y a cet édit, il faut oublier, ne plus jamais faire référence aux crimes passés. Donc l'idée de devoir de mémoire, ou au contraire devoir d'oubli, c'est quelque chose qui traverse l'histoire de France, je crois.
Et pas seulement l'histoire de France, d'ailleurs. Non. L'histoire de tout, enfin, toute l'histoire mondiale, et qui se pose notamment au moment des changements de régime, des révolutions, ouais. Savoir ce qu'on fait des gens qui se sont rendus coupables dans le régime précédent, d'exactions, ouais. Est-ce qu'on juge, on juge pas, comment on juge, au bout de combien de temps, etc. Vaste question. Alors sur la rafle du Vel'd'Hiv elle-même, dont on parle depuis le début de cette émission, Mathilde, quel est le regard que vous portez ?
Enfin, le regard que je porte, le regard que portent les historiens qui travaillent dessus. Donc effectivement, on parle beaucoup de la rafle du Vel'd'Hiv, c'est-à-dire 12 800 juifs qui ont été arrêtés, raflés entre le 16 et le 17 juillet 1942, entassés au vélodrome d'hiver, sans nourriture, avec un seul point d'eau, et qui ont ensuite été déportés dans les camps de la Meurthe. Et derrière la rafle du Vel'd'Hiv, en fait, on parle aussi des 76 000 juifs qui ont été arrêtés, raflés et déportés, dont seulement 3% sont revenus vivants, auxquels il faut ajouter 3 000 qui sont morts dans les camps français, et 1 000 qui furent exécutés comme otages. Et derrière encore, en fait, on parle aussi des 5 millions au minimum, hein, les chiffres varient entre 5,1 et 5,8 morts du génocide nazi. Donc voilà de quoi on parle. Et ce dont on parle aussi, c'est une rafle et d'autres rafles qui ont été faites en réponse aux demandes allemandes, mais qui ont été préparées par des fonctionnaires français à partir d'un fichier établi par l'administration française, mené par la police française, aidé d'ailleurs pour le Vel'd'Hiv du Parti populaire français de Doriot, avec l'aide de l'ancêtre de la RATP qui a fourni les bus. La seule image, une des principales images que l'on a du Vel'd'Hiv montre ces bus qui ont été prêtés par l'ancêtre de la RATP. Donc voilà, c'est de ça dont on parle. En fait, l'État français, Vichy, c'est un État policier qui a appliqué une violence d'État, qui a supprimé les libertés, contrôlé la population, réprimé les oppositions et persécuté des groupes entiers par pure xénophobie. En fait, Vichy et les nazis partagent les mêmes ennemis. Et comme le régime de Vichy est obnubilé par l'affichage de sa souveraineté nationale, ne serait-ce, même si c'est en contexte de collaboration, il veut souvent prendre les devants pour montrer qu'il est bien souverain. En fait, comme s'il fallait tout le temps dire « l'Allemagne ne nous oblige à rien, nous restons souverains, notre police règle l'ordre, etc. » Et ça leur pose d'autant moins de problèmes que l'idée l'idéologie raciste et xénophobe qui est la leur est aussi celle des nazis. Alors ceux qui sont visés particulièrement, ce sont les juifs étrangers. Des juifs que l'État de Vichy doit d'abord définir, parce que dans l'étape, il faut d'abord définir. En prenant donc le 3 octobre 1940, le premier statut des juifs. Donc, quand on voit l'image. Une définition dans le statut des Juifs qui va même au-delà de la définition que les nazis avaient donnée dans les lois de Nuremberg, puisqu'il n'y a plus de considération de l'appartenance religieuse des individus et que les critères sont généalogiques. Une fois que l'on a dit qui est juif, hein, le memento était donc distribué et affiché dans les mairies et les gendarmeries, hein, les juifs deviennent en fait des citoyens de seconde zone à qui l'on interdit tout un tas de professions et de lieux. Parcageux, réservé aux enfants et interdit aux juifs. L'administration française a ensuite donc organisé un recensement qui lui a permis de connaître les noms et les adresses et qui va faciliter les rafles par la suite. Étape suivante, dont on a parlé tout à l'heure, l'administration française arianise les biens des juifs. Une spoliation qui va toucher 47 000 entreprises et qui fut à nouveau justifiée au nom de la souveraineté nationale. On voulait empêcher les Allemands de mettre la main basse sur des richesses nationales. Ensuite, Vichy s'est employé à priver de nombreux juifs français de leur nationalité française. Il a annulé les naturalisations qui avaient été faites depuis 1927, retiré leur nationalité aux enfants nés en France de parents étrangers, aboli en Algérie le décret Crémieux, c'est-à-dire qu'ils ont créé des apatrides et nié le droit du sol. Or, ces juifs étrangers ou faits étrangers, Vichy veut les expulser du territoire, les renvoyer chez eux. Ce alors que de nombreux sont en France parce qu'ils ont fui justement les persécutions antisémites à l'Est et pensaient trouver du refuge en France, et ce n'est pas ça qu'ils vont trouver. En attendant, on les arrête et on les interne dans des camps d'internement du sud de la France. Alors, il faut voir que l'internement en France, c'est un moyen privilégié des politiques xénophobes et répressives. C'est pas nouveau. La République, par exemple, avait interné les réfugiés espagnols qui avaient fui la victoire de Franco. Les colonies avaient leur camp d'incarnement. Mais sous Vichy, c'est généralisé. Donc des camps sont ouverts, on en connaît les noms, Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande. Ils sont en zone occupée, mais ils sont sous administration française. D'ailleurs, dans les photos de l'époque, on reconnaît les képis des uniformes français. Les premières rafles d'arrestation ont lieu avant 42, dès 41, mai 41 à Paris, 3700 juifs polonais, août 41 à Paris, décembre 41 à Paris. À ce stade, ce sont essentiellement des hommes et surtout des juifs étrangers, mais des juifs français aussi, par exemple en décembre. La politique va se radicaliser en 42, du fait de la radicalisation en Allemagne. La solution finale est engagée, les nazis ont commencé la déportation des juifs dans tous les territoires qu'ils contrôlent. Mais aussi, radicalisation à Vichy, Laval est revenu au pouvoir. Drancy devient donc un camp de transit pour Auschwitz et à nouveau, administration, transport, police française sont mobilisés. Alors que les nazis n'exigent pas les enfants, Vichy les livre pour éviter que l'opinion publique soit choquée de la séparation des parents et des enfants, mais aussi parce qu'ils ne voulaient pas s'occuper de ces enfants qui se retrouvaient finalement sans parents. Alors en livrant les juifs, Vichy ne sait pas nécessairement qu'ils seront tués dans les chambres à gaz, même s'il y a des tracts de la résistance qui le disent. En revanche, Vichy et les autorités françaises connaissent les massacres qui ont eu lieu à l'Est, connaissent les conditions de transfert, savent que la déportation n'est pas une déportation de travail. Donc ils ont conscience des risques mortels qui font payer, enfin, courir aux populations qu'ils livrent. Donc c'est en 42 que commencent les grandes rafles, le Veldiv dont on a beaucoup parlé, mais plein d'autres, Paris, Bordeaux ou Papon-Œuvre, Rennes, Le Mans, enfin à peu près toutes les villes. Les camps d'internement des juifs étrangers sont vidés et les populations déportées. En 42, ce sont 42 000 personnes qui seront ainsi déportées par les autorités françaises pour être exterminées par les nazis. Alors en 43, léger tassement, 17 000 déportations. Il faut voir que l'État français se montre rétif devant les demandes allemandes d'une arrestation en masse des juifs français et freine légèrement les rafles et les déportations. Ça s'explique en fait par la peur de la réaction de l'opinion publique, car il y a eu des réactions aux grandes rafles de 42, notamment des évêques de France. Ça montre par ailleurs, à contrario, que quand Vichy ne mettait pas ses administrations au service de l'occupant, la déportation était limitée. Donc ça montre à contrario la responsabilité de Vichy. Le bilan, donc 80, je vous l'ai donné tout à l'heure, 80 000 juifs de France ont trouvé la mort dans les camps français ou les camps allemands, un quart des juifs de France. C'est moins que d'autres pays, Hollande ou Belgique. Ce qui s'explique surtout, d'abord par des facteurs géographiques, un pays plus grand, des zones de refuge, et puis surtout des frontières nombreuses avec des espaces où en fait les juifs étaient protégés. Donc ils ont pu partir en Hollande ou en Belgique, quand ils partaient, ils tombaient dans une zone où c'était tout aussi dangereux pour eux. Et puis parce qu'il y a eu des Français, vous en avez parlé, une minorité certes, mais suffisamment importante, les justes, pour sauver des juifs ou les aider à fuir dans les zones. Mais si on veut faire une comparaison avec un autre pays, par exemple le Danemark. Au Danemark, le roi a menacé de porter l'étoile jaune quand les Allemands voulaient l'imposer. En septembre 43, un diplomate allemand a fait une indiscrétion et on a su que 7000 juifs de Danemark devaient être déportés. Eh bien, la population s'est mobilisée pour faire passer les juifs en Suède neutre à travers le détroit de Copenhague. Et là, avec la bienveillance de la police et avec l'aide de l'administration danoise, des flottilles de petits navires ont sauvé les juifs. Ils ont tous été sauvés de l'extermination.
au Danemark. Très bien. Alors, il y a un nom que vous n'avez pas prononcé, mais que je vais prononcer moi avec mon sens habituel des pieds dans le plat. C'est le nom de quelqu'un qui n'est pas historien, mais qui intervient avec vigueur dans le débat public. Il s'appelle Éric Zemmour. Et Éric Zemmour, qui a provoqué une sorte de scandale il y a quelques années, avec la publication d'un livre dans lequel il affirmait, en fait, le régime de Vichy a sauvé les Juifs français. Le régime de Vichy a sacrifié les Juifs étrangers pour sauver les Juifs français. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça?
Je vais vous prendre une image. Vous voyez, vous avez un couple de vieilles personnes qui marchent dans la rue, qui sont agressées par un voyou. Le voyou va massacrer la femme, c'est-à-dire, pour aller vite, entre guillemets, la plus fragile. Réaction de la foule ou peur de ce qui va se passer, il va épargner l'homme et il va dire après, vous voyez, j'ai sauvé l'homme. Voilà. En gros, c'est le raisonnement de M. Zemmour. C'est de la foutaise absolue. Excusez-moi, j'en place d'air parce que je ne veux pas passer mon temps à discuter ce que dit Zemmour. En revanche, là où il y a effectivement, et c'est une question, puisque ça nous ramène quand même au débat lancé sur la place publique récemment, c'est quelle est la responsabilité de la France? Alors ça, je l'ai dit, je l'ai écrit encore aujourd'hui. Comme historien, je suis incapable de répondre à cette question avec certitude. C'est-à-dire, si on veut dire « toute la France est à Vichy », c'est faux, évidemment. Enfin, on n'a pas besoin d'être historien pour comprendre ça aujourd'hui. Il y a une part progressive, d'ailleurs, d'abord des Français qui ont refusé ce qu'était le régime de Vichy, qui ont refusé l'occupation, etc. Ensuite, si on veut faire dire que toute la France était à Londres, c'est absurde. C'est doublement absurde. Parce que dans toute cette polémique, je fais quand même une parenthèse, la résistance a été réduite au général de Gaulle. On a l'impression de revenir, franchement, au débat des années 50. Qu'est-ce qu'on fait de la résistance intérieure ?
Henri Rousseau, j'ai l'impression que là, on n'a pas une discussion historique, on a une sorte de discussion théologique, qui est relativement intranchable par les historiens. Parce que vous aurez toujours des découvertes sur l'appareil d'État de Vichy, vous aurez toujours d'autres découvertes sur l'ampleur de la résistance, je sais quoi.
Oui, attendez.
Non mais je veux dire, est-ce qu'un jour cette question pourrait être définitivement tranchée?
Non, elle ne sera pas définitivement tranchée, mais on a quand même des
Tim
éléments.
Tim Snyder a essayé de la trancher, vous pouvez peut-être faire
référence
à ça.
Oui, Tim Snyder, c'est un historien américain qui a publié quelques livres majeurs sur l'histoire de la solution finale et qui a une théorie, enfin pour aller vite, sur plus il y avait une présence étatique dans les pays occupés, plus on pouvait trouver des raisons ou des possibilités d'avoir moins de victimes. Alors dans le cas de la France, ça marche oui et non. Parce que ça marche dans un sens que, effectivement, la logique de Vichy consiste à défendre une certaine conception de sa souveraineté, qui est le sens même de la collaboration avec les nazis. Et lorsque ça n'entre pas dans son intérêt, eh ben, il va reculer dans la collaboration. C'est pour ça qu'il va refuser. En tous les cas, il ne va pas participer à une livraison massive de juifs français, c'est-à-dire de ses propres nationaux. Mais en même temps, sans le régime de Vichy, il n'y aurait pas eu, probablement en tous les cas pas de cette manière-là, le nombre de victimes qu'il y a eu au total sur la déportation des Juifs et des résistants, on les oublie toujours. Hein. Bon, donc c'est un débat qui est intéressant. Mais la question qui a été posée quand même, parce que quand on suit l'agitation à la fois médiatique sur les réseaux sociaux, c'est le débat autour de la France. Il y a beaucoup de gens pour qui j'ai beaucoup d'estime qui disent mais au fond Madame Le Pen a raison. Alors mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est là où il y a quand même.
Qui sont ces gens pour qui vous avez beaucoup d'estime et qui disent Madame Le Pen a raison?
Je veux dire des intellectuels, des collègues. Je ne veux pas donner de nom, non, mais peu importe.
Non,
mais je veux dire, s'il y a une...
c'est dommage. Écoutez,
non, mais c'est pas qu'ils sont d'accord, mais par exemple, enfin, j'ai pas entendu exactement ce qu'il me disait, mais Jean-Noël Jeannet, pour qui j'ai énormément d'estime, dit, je suis au fond d'accord avec cette idée que Vichy, c'est pas la France. Mais là, alors, moi, j'ai dit, par exemple, dans mon article du Huffington, je reprends une phrase de Guénaud, qu'il a répété souvent, y compris récemment, « Ma France n'était pas à Vichy, était à Londres. » Et moi, je dis à M. Guénaud, « Mais moi aussi, M. Guénaud, ma France, elle était à Londres et pas à Vichy. » C'est d'autant plus facile à dire que nous sommes 70 ans après et que, honnêtement, je ne sais pas que ce que moi j'aurais fait ou pu faire dans une époque comme celle de l'occupation. Maintenant, il y a deux choses. La première, c'est qu'on a quand même travaillé. C'est-à-dire, je dis, nous, les historiens, on ne peut pas rester aujourd'hui dans l'idée qu'au fond, on ne sait rien. On a énormément travaillé sur les questions d'opinion, sur les questions de soutien, sur les questions de savoir jusqu'à quel point le régime de Vichy, qui a quand même une certaine autorité sur l'ensemble du territoire, a été quelque part soutenu par la société française. La réponse est quand même très largement positive, au moins pour les années 40, 41, 42. Donc qu'on le veuille ou pas, que ça nous fasse du mal ou pas, c'est une réalité. Pour des raisons, d'ailleurs, il faudrait une autre émission pour l'expliquer, qui ne tiennent pas uniquement à des raisons, et même très peu à des raisons,
raisons idéologiques. Pétain a mis fin à une guerre qui était perdue. Bon, De Gaulle a dit, moi je la continue. La plupart des Français ne voulaient pas la continuer. C'est quand même une réalité. Aujourd'hui, on en a des milliers d'exemples. Voilà. Maintenant, la deuxième question, alors là, je vais sortir un peu de mon rôle d'historien. C'est quoi, au fond, ce débat? La France était-elle à Londres ou était-elle à Vichy? Encore une fois, Londres ne représente pas toute la résistance, très loin de là. Bon, la plupart de, beaucoup de primo-résistants, comme on dit, étaient des gens qui étaient favorables au maréchal Pétain. Enfin, c'est un petit détail qu'on oublie, mais c'est pas grave. Bon.
Il y a beaucoup de détails dans cette histoire.
Non, mais c'est un détail qui montre bien à quel point on résume d'un slogan une situation quand même assez compliquée. Mais la vraie question, c'est de savoir si demain il y a une situation comparable à celle qui était celle des Français en 1940, face à l'émergence, à la fois, enfin, face à la défaite et à l'émergence d'un nouveau régime, qu'est-ce qu'on ferait? Où irions-nous? À Londres? À Vichy? À Berlin? À Bruxelles? J'en sais rien. C'est ça la question qui m'importe. Et je pense que dans un débat.
Qui importe aux citoyens, pas à l'historien, on l'a bien compris.
Oui, mais l'historien, je peux pas toujours faire le départ. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce que ce type de débat historique, si on veut s'en tenir uniquement à un débat historique, ça n'a aucun sens. Je le dis clairement, à la question « La France était-elle à Londres ou à Vichy ?» comme historien, je dis « Cette question n'a pour moi aucun sens. » Si c'est un débat de valeurs, oui, cette question a un sens. Alors si on débat des valeurs, on débat pas uniquement du passé, on débat du présent et du futur. Or, vous remarquerez que dans ce débat, on s'accroche sur une sorte de querelle d'interprétation sur le passé, mais personne ne débouche sur le présent, sur le futur. Enfin, en tous les cas, j'ai mal entendu.
Il y a quand même des réponses possibles. On peut dire que la chose à éviter coûte que coûte si les choses vont mal à l'avenir, c'est le recensement ethnique ou le recensement religieux. C'est la pire des choses. À partir du moment où il n'y a pas de recensement, où on refuse systématiquement d'être recensé, tout est plus difficile pour les gouvernements oppressifs.
Bien sûr, évidemment. Il y a toute une série de mesures que Vichy a prises en tant que régime... comment dire, souverain, qu'on le veuille ou pas, qui semble comme des leçons sur un possible, bon, une possible catastrophe à venir. Mais la question, par exemple, c'est à partir de quel moment un fonctionnaire dit non? À partir de quel moment un fonctionnaire va entrer dans la logique de la désobéissance? C'est extrêmement compliqué. Ouais. Surtout lorsque le gouvernement a toutes les apparences de la légalité, voire de la légitimité. À partir de quel moment ce refus va être accepté? De Gaulle est un rebelle au sens, je veux dire, c'est pas une parole morale. C'est quelqu'un qui va dire non. Il ne représente strictement rien. Il part à Londres et il dit « Je suis la France ». Si la France avait perdu, si Hitler avait gagné la guerre, cette parole aurait disparu dans les oubliettes de l'histoire.
Vous posez énormément de questions et elles sont extrêmement intéressantes. Mais est-ce que vos travaux d'historien vous aident à apporter des réponses à ces questions? À ces questions qui se posent aujourd'hui, dont vous parlez?
Oui, en partie. Enfin, je vais être prudent là, un peu plus prudent, mais oui, en partie. Et on peut d'ailleurs faire la comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis. Bon, c'est vrai qu'un régime comme celui de Vichy, une situation comme la France de Vichy, quel que soit le point de vue qu'on a, est une circonstance exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est une défaite quasi inattendue de une des plus grandes armées puissances militaires françaises en l'espace de quelques semaines. Donc voilà, il y a une sorte de choc, de sidération. En même temps, lorsqu'on regarde l'histoire propre de ce régime, de son implantation dans la société française, on s'aperçoit que beaucoup de barrières sont tombées très vite. Bon, bien sûr, il y a le choc de la défaite, mais il n'y a pas que le choc de la défaite. Il y a toute la crise qui précède, il y a la crise des élites, il y a la crise de la République, il y a la crise économique. Et donc, on s'aperçoit que ce qui pouvait être un rempart, eh bien, petit à petit... encore une fois, dans une situation exceptionnelle, peut s'effondrer.
Non, mais ma question porte sur aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez, attendez, aujourd'hui, la référence à cette époque-là, et à l'époque antérieure, la montée des périls, la montée d'Hitler, etc., Munich, cette référence est omniprésente dans le débat public français. Et on entend sans arrêt dire, il faut pas céder à ceci parce que souvenez-vous de Munich. Je veux dire, on a entendu par exemple la référence à Munich à propos de la querelle du voile ou à propos des histoires de la laïcité par des gens qui disent « attention, il ne faut pas céder de terrain parce que souvenez-vous, Munich, etc. » De quelle manière ces références nous aident ou au contraire d'ailleurs obscurcissent nos débats selon vous aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des débats politiques aujourd'hui dans lesquels, à vous par exemple, ces références reviennent immédiatement et vous aident à apporter des réponses?
La question de Munich, s'il s'agit de parler de politique étrangère, elle peut être pertinente.
Parce que, bon, Munich aujourd'hui est diabolisé, mais il faut voir quand même que les Munichois, au moment de Munich, bah, c'est la moitié de la France. C'est-à-dire, c'est pas. Aujourd'hui, on connaît, on sait les conséquences, et c'est devenu presque une injure de traiter quelqu'un de Munichois. Mais dans les années qui ont suivi les accords de Munich, c'est un vrai clivage qui, d'ailleurs,
alors,
va
Munich,
déboucher.
Munich, je le rappelle, c'est un accord entre la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie qui aboutit à. Finalement, on était prêts à se faire la guerre à propos de la volonté d'Hitler d'envahir la Tchécoslovaquie. Il y a Munich, et finalement, les Occidentaux à Hitler, lui permettre d'envahir la Tchécoslovaquie, et il n'y a pas la guerre. Voilà, c'est ça, Munich.
Oui, c'était face à un dictateur qui a des vues sur d'autres pays, les puissances occidentales vont décider de laisser faire pour éviter une guerre, sachant qu'il y a quand même le souvenir de la Première Guerre mondiale derrière, hein, pas oublier ce. Donc, voilà. Donc,
non, mais alors, vous me parlez de Munich en 1938, mais moi, je vous interroge sur Munich aujourd'hui. Dans quelle mesure cette référence est pertinente ou ne l'est pas? Est-ce qu'elle guide votre.
Il suffit de la traduire. C'est un peu ce qu'on appelle le point Goodwin. Bon, voilà, enfin, tous ces débats, parfois, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. La référence au nazisme est évidemment systématique, elle est surabondante, elle perd du sens. Bon, on va le voir peut-être avec les États-Unis. Bon. Mais en même temps, on ne peut pas dire que c'est complètement sans signification.
Bon, bah, vous faites du « mais en même temps ». Alors, vous faites comme Macron, vous faites du « mais en même temps ».
C'est-à-dire quoi?
Oui, mais non.
Oui, alors.
Donc, ça ne nous aide pas beaucoup. Au total, ça ne nous aide pas beaucoup.
Bah, ça ne vous aide pas beaucoup parce que ça veut dire quoi? Il suffit d'enlever les mots, les références historiques précises, c'est-à-dire Munich ou Hitler, et de les traduire en un langage beaucoup plus général, vous pouvez parfaitement poser le problème. Est-ce que, par exemple, mener une politique étrangère dans une circonstance XY imaginaire qui consiste à dire on va laisser tel dirigeant politique faire ce qu'il veut sur un continent pour éviter une guerre qui coûtera encore plus cher, c'est un vrai problème, je suis désolé.
Voilà, exemple Poutine. Par exemple, la référence
munichoise.
C'est moi qui le dis. La référence munichoise revient en permanence propos de Poutine.
La question est relativement pertinente. Peu importe la question elle est relativement pertinente.
Vous trouvez?
Oui, avec toutes les précautions d'usage, évidemment. Le Poutine n'est pas en train de menacer. Encore que je suis désolé pour l'Ukraine, c'est comme une menace assez, et la Crimée, c'est quand même des menaces assez directes. Il y a des conflits. On n'est pas dans la discussion diplomatique. Donc, la question se pose. Et quoi que vous fassiez, d'ailleurs, quoi que nous puissions dire ici, la référence se posera toujours parce que cette période, que ce soit les accords de Munich, l'effondrement français, le nazisme, sont devenus des références majeures universelles.
Non, c'est bien parce qu'elle se posera toujours que je demande à l'historien spécialiste de la période de me dire ce qu'il en pense.
Vous voulez que je vous guide pour l'avenir?
Oui.
Non, je ne ferai pas.
On attend toujours ça des historiens, mais en fait, on ne peut pas faire ça.
C'est les politiques. Le politisme peut vous donner une réponse.
On y arrive à propos
des troupes. Dans le cadre de l'OTAN, l'armée française, en ce moment, a envoyé des troupes en Estonie et en Lituanie. Alors pourquoi? On peut se demander pourquoi, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une peur, une crainte qu'il y ait des avancées russes. Et donc c'est intéressant que dans le cadre de l'OTAN.
Attendez, j'ai pas suivi. Ça, c'est public ou c'est une révélation
que
vous faites?
Non, c'est pas une révélation, mais c'est pas débattu dans la presse. Ah, voilà. C'est un fait. On envoie ou va envoyer, en train d'envoyer des troupes dans le cadre de l'OTAN, donc, qui sont présentes.
Donc sous commandement OTAN.
Voilà. Et donc, il a demandé à ses troupes de s'informer sur ces sociétés qu'elles connaissent très mal. On ne connaît pas bien les pays baltes.
Donc, c'est les troupes qui vont s'informer. C'est du renseignement, en fait.
C'est-à-dire, non, qui doivent s'informer des pays baltes, de la langue, des traditions, de la religion, de pays où il n'y a jamais eu de troupes françaises, c'est tout. Mais il y aura une présence physique de militaires français dans un certain nombre de
pays. Alors, je ne comprends pas bien, vous en tirez une conclusion?
Si, la conclusion, ça veut dire pourquoi est-ce que la France, qui est toujours membre de l'OTAN, se croit obligée d'envoyer des troupes dans ces pays-là, c'est peut-être un réflexe anti-munichois.
C'est une supposition. Peut-être.
Supposition, absolument.
L'avenir le dira. Alors, on va passer aux États-Unis, c'est la deuxième partie de notre émission. Il se trouve que quasi simultanément à cette sortie de Marine Le Pen, on a assisté à une sortie absolument stupéfiante du porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer. Ça venait donc quelques jours après le bombardement américain de la Syrie, lui-même représailles après un bombardement chimique qui a fait de nombreuses victimes en Syrie, et Spicer, porte-parole de la Maison Blanche, dont il se livre à une comparaison assez curieuse au cours de son point de presse.
We didn't use chemical weapons in World War II. You know, you had someone as despicable as Hitler, who didn't even sink to using chemical weapons.
Voilà. Donc Hitler, lui, n'a pas utilisé d'armes chimiques. Alors, quelques minutes plus tard, dans la même conference de presse, on lui demande de préciser...
C'est pas ABC, il dit, mais c'est pas ABC à utiliser des armes chimiques.
On lui demande de préciser sa pensée.
quote, Hitler didn't even sink to the level of using chemical weapons. What did you mean by that?
I think when you come to sarin gas, there was no, he was not using the gas on his own people the same way that Assad is doing. I mean, there was clearly, I understand your point. Thank you. Thank you. I appreciate that. There was not in the, he brought him into the, to the Holocaust Center. I understand that. But I'm saying in the way that Assad used them, where he went into towns, dropped them down to innocent into the middle of towns, it was brought to it. So the use of it, and I appreciate the clarification there. That was not the intent.
Alors, moi, ce qui m'a tout de suite frappé l'oreille, c'est ce terme de Holocaust Centers, que j'entendais pour la première fois. Et je me dis, mais alors, ce type, il est porte-parole de la Maison-Blanche et il ne connaît pas le mot camp d'extermination.
Oui, là, il y a deux choses, deux choses très choquantes. Une autre qui l'est peut-être encore plus, c'est que ça révèle l'ignorance totale de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale de cette personne. Et confusion, parce qu'on ne dit pas de Holocaust Center aux États-Unis, c'est plutôt des musées qui commémorent la Shoah, qui existe d'ailleurs dans la plupart des villes américaines aujourd'hui, c'est pas seulement à Washington ou à New York. Donc c'est une confusion, mais qui montre la confusion d'esprit et l'ignorance du personnage.
Mais du personnage tout seul, ou alors il est représentatif de...
Non, il pensait à des camps de concentration, il a bafouillé. Mais dans la bafouille que vous venez de montrer, le plus choquant de tout, à mon avis, c'est quand il dit... Assad, c'est quand même pire qu'Hitler, parce que Assad, lui, a visé... His own people. Donc, ces gens à lui, son peuple à lui, laissant entendre que dans le cas d'Hitler, il avait peut-être tué des gens qui étaient des juifs, mais c'était pas vraiment le peuple allemand. Et ça, c'est le plus terrifiant, disons, quand on sort. Et d'ailleurs, il a persisté, bafouillant, s'excusant, il rajoute, oui, mais Assad, il a tué des innocents, laissant entendre qu'Hitler avait peut-être pas tué des innocents. Et c'est ce non-dit qui est, à mon avis, terriblement choquant dans l'intervention de Spicer et qui montre son extraordinaire ignorance de l'histoire allemande.
Ma question, c'est son ignorance personnelle à lui ou l'ignorance de la petite équipe Trump de la Maison-Blanche ou c'est une ignorance plus générale parmi la population américaine ?
Je crois qu'il y a une ignorance plus générale. Alors, quel type d'études a-t-il faites ? Je ne sais pas. Ce serait intéressant de se poser la question. C'est sans doute quelqu'un qui a été formé pour les médias ou dans le business, donc qui n'a pas fait d'études d'histoire. Il y a quand même de très bons historiens aux États-Unis et de très bons historiens de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je crois que oui, c'est une ignorance générale de quelqu'un qui est indifférent à l'histoire du monde. Les Américains sont pas très... D'une part, sont relativement peu cosmopolites, parle peu de langues étrangères, même si c'est un pays d'immigrés. L'enseignement obligatoire de langue étrangère a disparu des grandes universités. Il n'y a plus d'obligation maintenant d'apprendre une langue étrangère. Donc il y a un peu une indifférence à ce qui se passe dans le reste du monde. Et je crois
qui est générale, en fait.
Oui.
Je fais la comparaison avec la première partie de l'émission. Je veux dire, la référence à l'histoire en France dans la campagne présidentielle, et Mathilde nous en a fait de nombreuses chroniques depuis plusieurs semaines, cette référence à l'histoire, elle est permanente. Ouais. Je veux dire, Vercingétorix, Clovis, la Révolution, Robespierre, le 19e, Napoléon, et Pétain, etc. Est-ce qu'il en va de même dans le débat politique américain ? Voilà, c'est ça la question.
Non, la seule chose qui intéresse Trump, c'est d'ailleurs une vision déformée de l'histoire américaine, c'est l'histoire américaine. Moi, je ressemble à Andrew Jackson. Je suis
Andrew Jackson, pour les noms...
Alors, Andrew Jackson, c'est un président qui est élu en 1828, qui est un général qui a remporté contre les Anglais
au moment où les... Massacrer les Indiens.
Et qui a notamment chassé plus de 200 000 Indiens du sud-ouest des États-Unis.
Chassé ou massacré ?
Il les a chassés de force dans des territoires qui étaient des déserts. Du coup, quand on vous transplante d'un endroit où vous cultivez et vous nourrissez dans un endroit qui est désertique, c'est pas un massacre annoncé, mais il est probable, disons. C'est un peu ce qui s'est passé.
C'est important d'être précis. Oui, et donc vous disiez Trump, Jackson, alors ?
Oui, alors... Donc l'histoire, une certaine lecture de l'histoire américaine, ça obsède des gens comme Trump, qui se voit comme, alors qu'il n'a jamais été militaire, il n'a jamais participé à la moindre guerre, parce qu'au moins c'est un général qui a battu les Anglais, après que les Anglais, il ne faut pas l'oublier, aient brûlé la Maison-Blanche et pris d'assaut Washington. Donc là, il y a une vraie victoire. Et puis ensuite, bon, c'est soi-disant l'homme de l'Ouest, c'est le pionnier, c'est donc il incarne soi-disant des valeurs de à la fois de démocratie et de populisme. C'est un populiste. C'est l'image ancienne du populisme à l'américaine, à une époque où le suffrage masculin se développait.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est alors, que le modèle historique de Trump, c'est Jackson.
C'est Jackson. Et alors, lorsqu'il y a eu au début de l'année, en janvier, un jour de commémoration de Holocaust aux États-Unis, qui est un jour de commémoration, la Maison-Blanche a publié une petite déclaration disant que, oui, c'est un jour très triste, etc., où beaucoup d'Allemands sont morts, aucune référence aux Juifs. Ça a été reproché à Trump, qui a dit, mais oui, non, mais nous, c'est la pluralité, on est divers, il y a eu des tas de gens, des tas de groupes différents, on les entend, il y avait des homosexuels, il y avait des malades, il y avait... Donc, c'était pas nécessaire de faire référence aux Juifs. Et ça lui a été reproché, bien
Qu'est-ce
sûr.
Qu'est-ce que vous pensez de cet argument, d'ailleurs?
Ben, c'est un mauvais argument, et ça montre à nouveau une espèce d'ignorance d'autant plus choquante que dans la première version du communiqué qui n'a pas été officielle, qui n'a pas été publiée, il était question des Juifs. L'Holocauste qui a surtout tué des Juifs. Et ça, l'un des conseillers de Trump a enlevé ces Juifs pour dire c'est un moment très triste.
Ah, je ne savais pas si ça avait été barré. Je ne savais pas si ça avait été barré dans une...
Barré ou supprimé dans la rédaction finale. Oui. Alors, il y a d'autres exemples aussi d'indifférence à l'histoire choquante. Lors de la campagne, l'été donc 2016, présidentielle, Trump a utilisé un tweet... une image, et dans ce tweet, il y avait une image qui est l'un des stéréotypes antisémites les plus éculés, qui représentait Hillary Clinton, la candidate la plus pourrie des États-Unis, avec, c'est marqué sur, vous voyez, une étoile de David, ouais. Et puis entourée de plein de billets de banque. Donc ça, c'est le stéréotype. Alors normalement, vous avez le juif au nez crochu, l'étoile de David et les billets de banque derrière. Et ça a été d'ailleurs, ça venait de l'ultra-droite américaine. Et lorsqu'on a demandé à Trump est-ce qu'il se rendait compte de ce qu'il avait fait en tweetant ce document, Trump a dit « mais pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'étoile de David, non, c'est une étoile de shérif ». Bon, donc indifférence aux faits, refus d'admettre son erreur, et ça aussi c'est un problème. Lorsqu'on fait une erreur, on peut dire « je suis désolé, j'étais confus, j'aurais pas dû faire ça », mais ni Spicer, ni Trump, ni ses conseillers ne veulent admettre qu'ils font des erreurs plus qu'embarrassantes.
Antisémitisme ou simple indifférence, la question s'était déjà posée au cours d'une conférence de presse de Trump lui-même. Oui. Au moment dont vous parlez là, un incident l'avait opposé
à un journaliste
d'un média, non américain, mais représentant d'une revue juive américaine.
What we are concerned about, and what we haven't really heard being addressed, is an uptick in anti-Semitism and how the government is planning to take care of it. There are people who are committing anti-Semitic acts or threatening to.
You see, he said he was going to ask a very simple, easy question, and it's not. It's not. Not a simple question. Not a fair question. Okay, sit down. I understand the rest of your question. So here's the story, folks. Number one, I am the least anti-Semitic person that you've ever seen in your entire life. Number two, racism, the least racist person. In fact, we did very well relative to other people running as a Republican. Quiet. See, he lied about he was going to get up and ask a very straight, simple question. So, you know, it's welcome to the world of the media. But let me just tell you something. That I hate the charge. I find it repulsive. I hate even the question.
Oui, alors, verdict. Je veux dire juste indifférent, ignorant, insensible ou
sur la défensive, incroyablement
ou
sur
antisémite,
la défensive.
ou devant donner des gages à une partie supposément antisémite de son électorat.
Incroyablement sur la défensive. Peur d'être soupçonné comme étant raciste, ce qu'il est, puisque il veut recenser les musulmans, leur interdire l'entrée aux États-Unis, et donc il se cache devant le fait qu'il n'est pas raciste parce qu'il n'est pas antisémite, et il interrompt le journaliste qui parlait de tout à fait autre chose. Le journaliste disait « il y a des incidents antisémites nombreux aux États-Unis depuis votre élection, il y a là un problème, qu'est-ce que vous pensez faire à ce sujet ?»
Et d'ailleurs, il y a aussi des incidents islamophobes. Hein,
aussi, en même absolument, temps. Et qui montent tous les deux de façon exceptionnelle depuis l'élection de Trump. Donc au lieu de confronter cette vraie réalité, mais on ne croit pas à la réalité chez Trump, la réalité et la fiction c'est un peu la même chose, et là il est terriblement sur la défensive en prétendant qu'il est l'homme le moins antisémite du monde. Et le moins raciste du monde aussi, alors que ça n'est pas le cas. On sait qu'il est raciste, qu'il est xénophobe. Il n'est pas formellement antisémite, c'est vrai, mais il est indifférent aux faits concernant l'Holocauste, concernant on l'a vu le cartoon tout à l'heure. Donc cette indifférence à la réalité
est troublante, mais elle fait partie du personnage qui ne croit pas à la réalité.
Cela dit, il n'est pas le premier.
Le virtuel et le réel est la même chose.
Il n'est pas le premier président américain indifférent au génocide, et on va examiner à la fin de cette émission le cas de Roosevelt lui-même dans une seconde. Juste à propos de Trump, il se trouve que vous étiez invité à un colloque aux États-Unis quelques semaines après l'arrivée au pouvoir de Trump et que vous avez eu de légers problèmes.
Alors rapidement, parce que ça a été une histoire qui était très très médiatisée. Je me rendais à un colloque, effectivement. J'ai atterri à Houston. On a examiné mon passeport. On m'a dit que je venais donner une conférence alors que le visa que j'avais pour un séjour précédent était expiré, que j'allais toucher des honoraires pour faire cette conférence, et donc que j'étais dans l'illégalité.
Alors ça, c'est Trump ou c'est pas Trump? Ça, c'est un effet Trump indirect ou pas?
Alors, si je prends mon cas juste personnel, c'était, puisque c'est ce qu'on m'a dit après 10 heures de rétention quand même, que c'était une erreur d'un officier inexpérimenté, c'est le tweet que j'ai fait quelques jours après. De fait, si on regarde, on est donc le 23 février, si on regarde ce qui se passe ces jours-là, vous avez le même jour où à peu près le fils de Mohamed Ali, citoyen américain, qui se voit refuser l'entrée aux États-Unis, au moins pour un certain, je ne sais plus pour combien d'heures, une écrivaine australienne qui également subit le même sort, c'est-à-dire... les contrôles aux frontières aux États-Unis, c'est pas une nouveauté, hein. C'est d'ailleurs partout. Les États-Unis sont pas uniques. Non. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils appliquaient une des directives de Trump, enfin qui s'appelait the vetting. Ça veut dire cette façon de renforcer les contrôles, chercher systématiquement les problèmes, les éventuelles failles. Dans mon cas, c'est puisqu'il y a eu beaucoup de cas similaires aux miens. C'est-à-dire, dès lors qu'on soupçonne que je ne suis pas dans les règles, au lieu de faire une remontrance, qui était, on va dire, l'attitude dans le passé, on vous garde 2 heures, on vous dit, monsieur, la prochaine fois, faites attention, eh bien, on vous déporte. Enfin, c'est le terme, on vous expulse. La procédure d'expulsion, c'est pas rien. Hein.
Attention aux mots.
C'est un anglicisme.
C'est le mot anglais.
C'est pas rien, hein, l'expulsion. Une expulsion, c'est-à-dire, vous partez dans l'avion avec les menottes, les chaînes autour de la taille et les entraves aux chevilles. Hein. Moi, j'ai vu partir un compagnon d'infortune quelques heures avant que je ne sois soumis au même sort. Bon, heureusement, ça s'est arrêté pour moi. Bon, donc voilà, oui, incontestablement. Enfin, ça, c'est mon cas personnel et à la limite n'importe peu. Mais il y a clairement une vérification systématique.
Vous avez fait des déclarations très fortes sur le moment. Vous avez dit les États-Unis ne sont plus les États-Unis.
Ah oui, c'est ce que j'ai ressenti.
Et honnêtement, aujourd'hui, vous diriez la même chose.
Sur cette question-là. Oui, clairement. Attendez, vous avez... Je prends un exemple. Dans mon cas, l'université qui m'invitait a réagi. Alors, elle a réagi. Pourquoi? Parce que j'étais un invité étranger qui venait chez elle. Et donc, c'était très important en termes, on va dire, de relations culturelles, scientifiques, intellectuelles. Mais le gros problème à l'heure actuelle des universités, comme beaucoup d'autres, organisations ou organismes américains, c'est que ce sont des citoyens américains qui s'absentent, qui vont à l'étranger, qui ne peuvent plus rentrer dans leur pays parce qu'on va leur opposer...
Des étudiants,
par exemple. On va leur opposer leur lieu de naissance, on va leur opposer un risque pour la sécurité nationale. Il y a un arbitraire aux frontières qui repose sur des textes qui sont antérieurs à Trump. Hein, c'est pas les textes sont là, mais qui sont appliqués aujourd'hui avec une extrême sévérité. Et c'est très inquiétant.
– Et pas seulement des textes, parce que quand vous avez un président qui vous dit « moi je vais expulser 12 millions de sans-papiers, je vais construire un mur entre les États-Unis et le Mexique », ça ne peut que renforcer… les croyances, disons, répressives de ces gens qui sont chargés de la répression. Il ne faut pas se faire d'illusions. La police des frontières et la police fédérale aux États-Unis sont des gens qui votent massivement pour Trump. Donc, ils sont encouragés dans leurs tendances les plus répressives, qu'il y ait ou non des textes.
Y compris indépendamment des consignes officielles. Indépendamment des consignes, à partir du moment qui peuvent leur être données ou pas.
La mentalité, c'est attention, l'ennemi intérieur est partout et l'ennemi extérieur est là aussi. Ça ne peut que vous renforcer dans vos comportements les plus dangereux.
Oui, ça pousse aux ailes.
Ça pousse aux ailes, oui. Ouais. Alors, un mot, en préparant cette émission, alors sur le sujet des présidents américains et de l'extermination nazie, vous nous avez dit, attention, Trump n'est pas le premier, et vous nous avez dit Roosevelt aussi.
Oui, c'est-à-dire que Roosevelt, on lui a reproché d'être insensible, de ne pas réagir suffisamment à la solution finale. Il a été informé assez tôt, d'ailleurs.
Roosevelt, excusez-moi, je le rappelle, le président qui était en fonction au moment de la Seconde Guerre mondiale.
Quatrième mandat. Et on sait que un certain Ragner, qui était le le représentant du World Jewish Congress à Genève, Gertrude Rigner,
du Congrès juif mondial à Genève, oui.
C'est ça. Est informé en 42 très tôt du fait, par différentes sources suisses et autres, et confirmées par le Vatican et les Polonais en exil, de la solution finale. On sait qu'il y a une solution finale. Dans cette solution finale, il est prévu de gazer des millions de juifs. Donc, il est informé. Il transmet l'information au vice-consul de Genève, lui demandant de l'envoyer au président du Congrès juif mondial, Stephen Weiss, qui est un rabbin américain qui vit à New York, et de la transmettre au département d'État. Alors, tout ça traîne. L'information circule, mais très lentement. Le numéro 2 du département d'État obtient l'information à la fin de l'année 42. Et la première réponse du département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères, c'est « on n'y croit pas ». C'est des bobards, ces juifs qui sont toujours quémandeurs et anxieux. Et donc, c'est pas crédible. Cette chose-là n'est pas crédible. Puis finalement, l'information est recoupée. Elle est vérifiée. Elle est considérée comme exacte. Et puis, rien ne se passe pendant plus de 14 mois. Pourquoi? Parce que le département d'État, à l'époque, est plutôt une chasse gardée des WASP, des White Anglo-Saxon Protestants. C'est pas à l'époque où il y a Kissinger, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de juifs. Il y a d'autres priorités pour le département d'État. Et donc, les choses vont traîner. Et finalement, sur la pression de Wise, mais aussi de Morgenthau, qui est un juif et qui est le ministre des Finances, et qui est un grand ami de Roosevelt, Roosevelt va faire cette chose utile, peut-être un peu trop tardivement, mais très très importante, qui est la création du War Refugee Board, donc la création du bureau des réfugiés, qui sera créé en janvier 1944 et qui sauvera à peu près 200 000 juifs.
Mais avec de nombreux mois de retard.
Oui.
Alors, il avait été
42 à 44.
Il avait été informé par plusieurs canaux, vous l'avez dit, oui. Et l'un de ces canaux est parvenu jusqu'à nous, et c'est un document extraordinaire. J'imagine que vous le connaissez déjà. C'est le fameux délégué de la résistance polonaise Jan Karski qui arrive aux États-Unis. Qui obtient un rendez-vous avec Roosevelt, et je dis que c'est parvenu jusqu'à nous, puisque Karski a accordé une interview à Claude Lanzmann, dont on va voir un extrait où il raconte justement son rendez-vous avec Roosevelt.
I speak to the president in those terms. Expectations, fears among the leaders. All hope, Mr. President, has been placed by the Polish nations in the hands of Franklin Delano Roosevelt. Then I come to the Jewish problem. Mr. President, before having left Poland, I was charged with this mission by the most important Jewish leaders. They organized for me 2 visits in the ghetto. I saw extermination camp. The name is Belzec, B-E-L-Z-E-C. Mr. President, the situation is horrible. The point is, without the outside help, the Jews will perish in Poland. He enters. I remember every second of this conversation. The Allied nations.
Excuse me. What did he answer specifically?
Nothing.
To?
He enters the picture now. Nothing.
This was the end of your report?
Yes.
It came at the end, the Jewish...
I never had a chance. So now his answer. The Allied nations are going to win this war. And now he does ask me questions. Oh, yes. Underground movement. Do you know what question he asked me? Do I understand correctly, young man, that before the war, Poland was essentially an agricultural country? Yes, Mr. President, it was so. Well, now, what we understand in the Russian campaign, the Germans had to use tremendous amount of horses. Did they take those horses from Poland? Because with your agricultural economy, you need horses. Mr. President, yes. He asked me other questions. I had no chance, except my initial statement, to tell you, Mr. President, listen to me. Well, you don't speak to the President of the United States. No Jewish problem was mentioned until the end of the conversation, which lasted 1 hour, 20 minutes.
But excuse me to insist, but it is my theme. About the Jews, did he ask specific questions?
No.
No one?
No. Not a single one.
Not a single one?
Not a single.
Voilà, évidemment, document absolument prodigieux dans toutes ses dimensions, y compris avec les questions de Lanzmann et son formidable accent français. Enfin, voilà, c'est un grand document d'histoire. Alors, on parle de Roosevelt, hein, on parle du président qui a mené la guerre contre Hitler jusqu'au bout, qui a triomphé avec évidemment l'aide des Alliés, des Russes, etc., mais qui a triomphé d'Hitler. Et la question que pose Roosevelt, on est en 42, c'est sur les chevaux. Ce qui intéresse Roosevelt, c'est... Ah ben non, mais je veux dire, vous remettez en question le témoignage de Karski? Non, mais...
C'est une histoire qui dure depuis 50 ans. Donc, oui, mais... la question, c'est de savoir, parce qu'il y a une vraie question qui s'est posée par la suite, enfin, entre 42 et 44, c'est jusqu'à quel point les États-Unis, enfin les Alliés en général, et notamment les Alliés occidentaux, pouvaient intervenir dans le processus, c'est-à-dire arrêter tout simplement, bombarder Auschwitz.
Ça a mais été là, ils ne semblent même pas se poser la question de savoir comment ils peuvent intervenir. Enfin, oui, ce que nous dit Karski, c'est qu'ils s'en foutent.
Oui, c'est le témoignage de Karski, il est le seul. Et voilà, et on n'a pas d'autre.
La presse américaine parle des camps de concentration, y compris le New York Times. Alors, par exemple, on est informé très tôt des massacres de Chelmno.
Très peu en première page.
Non, c'est pas en première page.
Un des trucs qui sont saisissants dans cette histoire, quand on regarde le New York Times dans ces années-là, l'extermination est en page 7.
Oui, mais il y a quand même des manifestations, y compris de rabbins. 400 rabbins vont aller manifester à New York ou à Washington. Donc il y a quand même
une manifestation.
Il y a quand même une certaine visibilité. Il y a le groupe de Peter Bergson qui va mettre une page entière dans le New York Times pour dénoncer le record. Donc il y a le sujet n'est pas inconnu. Je suis désolé,
occulté par les médias américains de l'époque. Ouais. C'est une découverte récente que j'ai faite, d'ailleurs, depuis l'accession de Trump au pouvoir, où je me suis intéressé à la question. C'est totalement occulté par le New York Times à l'époque. Ouais. Il y a même un livre qui est sorti aux États-Unis et en France, qui s'appelle Relégué en page 7. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
J'ai aussi fait un film, enfin, c'est pas moi, c'est Virginie Linhart qui a fait un film sur la question des Alliés.
Ouais.
Parce que ce que vous dites de Roosevelt c'est encore pire pour les Anglais.
Hein. Bah oui.
C'est encore pire pour les Anglais, parce que les Anglais avaient un intérêt spécifique à taire les questions concernant la question de l'extermination des Juifs en particulier, à cause de la situation en Palestine. Donc, si vous voulez aller dans le détail, bon, pour Roosevelt, on peut discuter, mais sur la question des Anglais, il y a une volonté manifeste. J'irai même beaucoup plus loin, et là, Monsieur Philippot ne va pas être content du tout, c'est que la France libre aussi, pour des raisons qui n'ont rien à voir, pendant un certain temps, a beaucoup hésité à relayer les informations qui concernaient notamment la question de l'extermination, parce que, à tort ou à raison, je vous renvoie à un livre majeur sur le sujet de René Poznanski, à tort ou à raison, ils étaient persuadés que la population française était plutôt, ou penchait plutôt, du côté de l'antisémitisme. Et donc, comme on est dans une propagande de guerre, n'oublions jamais, vous pouvez pas juste comparer la situation de la Seconde Guerre mondiale avec la situation aujourd'hui. On est dans une propagande de guerre, et donc il y a eu ces hésitations-là.
Ce qui joue aussi, d'ailleurs, dans le cas Roosevelt, hein, puisque il y a aussi de l'antisémitisme aux États-Unis. Vous dites qu'il y a des manifestations de rabbins, mais il y a aussi des manifestations... Il y a des nazis américains.
Comme l'a très bien dit Pierre Birnbaum, par exemple, le New Deal, pour beaucoup de critiques de Roosevelt, est considéré comme le Jew Deal, le deal des Juifs. Roosevelt, dans la propagande allemande, est considéré comme un Juif entouré par un gang de Juifs. Donc lui aussi doit essayer de protéger son image.
Et ça l'inhibe. ça l'inhibe.
Oui, d'une certaine façon, oui. Il veut chasser cette image d'un président qui serait manipulé par un entourage de juifs, alors que ses plus proches conseillers sont effectivement des juifs. Et d'où le rôle important de Morgenthau, peut-être un peu tardif, mais qui est tout à fait important. En même temps, c'est compliqué aussi, parce que vous avez à la même époque, par exemple, en Roumanie, on va essayer d'obtenir une rançon. On va dire, on va permettre à des juifs d'immigrer de Roumanie contre rançon. Et Morgenthau, le secrétaire d'État du Trésor, va être impliqué dans cette négociation qui va échouer. Mais vous voyez, donc il y a toutes ces différentes dimensions. Et alors, ce qui est vrai dans le cas américain, c'est plutôt ce qui s'est passé avant-guerre, c'est-à-dire la politique d'immigration américaine est restrictive, la politique des quotas. Et les quotas allemands de 1924 à 1939 ne seront jamais remplis. C'est-à-dire que les immigrés allemands, on peut avoir, je ne sais plus, 30 000 ou 100 000 d'immigrés allemands. On ne va jamais remplir les quotas
Pourquoi ils sont remplis?
Parce que les conditions d'accès sont difficiles pour avoir un visa. Il faut prouver qu'on ne sera pas une charge pour l'État américain. Et donc, énormément de juifs qui auraient pu venir s'ils avaient rempli les quotas n'ont pas pu faire le déplacement à cause d'une politique excessivement restrictive d'immigration.
Bon, on pourrait en parler des heures et on y reviendra certainement, mais je crois qu'il faut, maintenant, ça fait un certain temps qu'on discute ensemble. Mathilde, une remarque d'ensemble sur l'émission?
Oui, enfin, juste parce que cette sortie de Marine Le Pen, on peut l'intégrer dans trois types d'histoires et qui sont complémentaires mais qui sont différentes. On peut se poser la question de ce discours sur le Valdiv dans l'histoire de la mémoire de Vichy, syndrome de Vichy, enfin, c'est ce qu'on a beaucoup fait. Voilà. On peut aussi se poser la question de cette prise de parole dans la dédiabolisation, la tentative de dédiabolisation du Front National par Marine Le Pen et Philippot, d'où le tweet de Philippot qui a une interprétation gaulliste de ce qu'a dit Marine Le Pen. Mais on peut aussi le resituer dans une question plus large qui est celle du discours sur la repentance que l'on a actuellement à la droite et à l'extrême droite. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, elle se fait coincer là-dessus. C'est Mazerolle qui la coince parce que dans son programme, elle évoque la repentance, le roman national, on finira là. Bon. Mais en fait, ça vise la repentance coloniale. C'est ça, en ce moment, sur lequel sont Fillon et Marine Le Pen. Enfin, on en a parlé dans un des débats, quand il était face à Elie de Motta. Donc quand elle fait son point 97 du programme, ce qu'elle vise, c'est la colonisation et l'esclavage. Sauf que Mazerolle la coince en lui disant « Ah oui, d'accord, la repentance, vous êtes contre, mais alors qu'est-ce que vous dites sur Vichy ?» Et comme elle n'a pas évidemment la légitimité d'un gaulliste pour dire « la France était à Londres, etc. », mais que c'est le parti de ceux qui viennent quand même pour beaucoup de Vichy et qui, par ailleurs, beaucoup viennent de l'Ouest, qui ont aussi attaqué De Gaulle. Donc elle est complètement coincée et elle tient le discours de non-repentance parce qu'elle est coincée par Mazerolle, mais en réalité, pour moi, je pense que l'enjeu derrière, ça reste toujours le refus absolu de la repentance sur la colonisation. Et c'est là-dessus qu'ils sont...
C'est une clé d'explication très intéressante, mais en même temps, elle parle explicitement de la rafle du Veldiv en 1942.
Mais voilà. C'est parce que Mazerolle lui pose la question, parce qu'il lui pose le point 97, c'est roman national et en finir avec les repentances. Mais elle ne veut pas réouvrir le dossier Veldiv, elle n'est pas folle en plus. Enfin, je veux dire, elle n'a rien à y gagner, d'ailleurs, elle le voit bien.
C'est raté.
C'est parce que là, la question a été parfaite.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.